Europe 1,
19h-20h,
Clap, Laurie Choleva.
Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1. Si vous aimez le cinéma, vous avez sonné à la bonne porte, c'est Clap, votre rendez-vous cinéma du week-end. Nous allons décrypter ensemble l'actualité du cinéma. Didier Alouche, notre correspondant à Hollywood, nous donnera la température. Et puis j'ai l'honneur de recevoir André Dussolier pour parler de ses retrouvailles avec Sabine Azéma dans la comédie N'avoue jamais. À mes côtés, deux femmes d'exception, Sophie Rosemont et Perrine Kenson. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir, bonsoir
Marie. Wow, allez, c'est beau. Vous allez bien?
Ça va.
Vous avez passé une bonne semaine?
Oui.
Vous avez vu des bons films?
Peut-être.
Oui. Alors déjà, avant de parler cinéma, un titre de film pour nous décrire un peu votre humeur du jour ou du week-end?
Eh ben moi, ce sera Sleep, parce que c'est enfin Sleep dans le sens de dormir
elle
en anglais.
Dormir, hein, elle
voilà, dormir, voilà, alors, parce que c'est enfin ce que je peux faire, donc ça me fait du bien.
Non mais Perrine, il faut expliquer à nos auditeurs que vous faites partie du comité de sélection pour la semaine de la critique pour le prochain Festival de Cannes. Donc vous avez vu combien de films en très peu de temps?
J'ai vu 250 films en 3 mois.
Voilà.
Donc la révélation, c'était lundi. Donc comment vous dire que là, je suis un petit peu soulagée.
J'imagine. Sophie, un titre de film?
L'Aventura, parce que voilà, en ce moment, je rêve d'aventure, je rêve de gambader, je rêve de sortir de cette pluie. Voilà, j'ai envie de grands espaces, mais ils sont encore très loin.
Est-ce que vous avez eu des coups de cœur dans l'actualité, des sorties salles?
Ah bah oui,
on va parler de quoi?
On va parler notamment d'un cauchemar de l'Amérique avec Sylvie Loire.
Oui, bien sûr. Difficile de passer à côté de cette sortie.
Et moi, j'ai un double coup de cœur. Un coup de cœur fictionnel avec Borgo et un coup de cœur documentaire avec Resilient Man.
Eh bien, on en parle dans un instant. Voilà pour le programme de Clap qui commence maintenant.
Europe 1.
Clap. Laurie Choleva.
I have got you under my skin. I've got you.
Évidemment, c'est la voix de Frank Sinatra. Est-ce que on ne va pas vous annoncer la news la plus excitante de ces dernières semaines?
Si.
Je pense que si.
Peut-être.
Alors, Martin Scorsese envisagerait, je mets bien des guillemets, de réaliser un biopic sur la vie de Frank Sinatra avec dans le rôle du célèbre chanteur
Leonardo DiCaprio.
Et évidemment,
son chouchou,
son acteur fétiche, et Jennifer Lawrence dans celui de sa seconde épouse, Ava Gardner. Alors, je sais pas hein, pour vous, mais moi je suis juste comme une folle. Martin, non mais il y a tout en fait.
Il y a tout qui nous plaît.
Il y a tout pour que ce soit incroyable. DiCaprio, Scorsese, Sinatra, la musique, enfin bon, ça pourrait quand même être dingue.
Bah, Léo, il était fait pour ça.
Ah non, puis ça lui va bien. C'est-à-dire que là, on a la musique, il y a le côté gangster. C'est vraiment fait tout pour Scorsese aussi. C'est vraiment tous les ingrédients de Scorsese.
Tout ce qu'on aime.
Ce serait leur 7e collaboration après Gangs of New York, Aviator, Les Infiltrés, Shutter Island, Le Loup de Wall Street. Et puis récemment, hein, on en
Killers
parlait l'année dernière au moment du Festival de Cannes, Killers of the Flower Moon. Bon voilà, donc on va suivre ça de près. On espère que ce ne soit pas
compte sur toi, Martin.
Ouais. on mise tout sur Scorsese. Alors, triste nouvelle, puisque nous avons appris cette semaine le décès d'Eleonor Coppola, l'épouse de Francis Ford Coppola, à l'âge de 87 ans. Faut savoir que samedi dernier, dans Clap, on vous annonçait la présence de Francis Ford Coppola au Festival de Cannes et la présentation de son film, hein, tant attendu. Et quelques jours plus tard est survenu donc le décès de son épouse. 61 ans de mariage, c'est vraiment une très belle histoire.
Je ne sais même pas ce que c'est comme noces, 60 ans de mariage. On a largement passé les noces d'or,
si
je sais pas.
Encore, ouais. Et puis, elle réalisait souvent des documentaires making of sur les tournages du film de Francis Ford. Elle en avait fait un notamment pour Apocalypse Now,
qui était exceptionnel.
Ouais. Complètement. Et là, en fait, c'était encore plus triste puisqu'elle préparait un projet un peu hors norme avec sa fille, Sofia Coppola. Elle devait réaliser un documentaire sur le film Marie-Antoinette, puisqu'apparemment, elle a tourné plus de 80 heures de rush.
Oui, et je pense que ce film va finir par sortir, car elle avait quasiment terminé, je crois, si ce n'est terminé, donc j'ai bon espoir. Mais Eleanor Coppola, c'est vraiment ce type d'artiste féminine qu'on réduit à l'ombre de son mari, alors que c'était vraiment, elle avait un sens de l'image très fort. C'était une documentariste, elle avait aussi signé deux très beaux films de fiction, notamment un avec Jan Lane. Et vraiment, c'est une grande perte, même s'il a eu une très belle vie, notamment ces 6 décennies de conjugalité avec Francis Ford, qui ne devait pas être de tout repos.
Franco quand même.
Non, je pense pas.
Alors c'est Noces de diamant, 60 ans de mariage. Voilà, 60 ans de mariage.
Ouais, quand même. Pas mal. Et ben j'espère qu'elle en a eu un beau. Mais le, mais surtout, il y a cette fameuse expression, on dit derrière chaque grand homme, il y a une femme. Elle est assez agaçante cette expression. Mais surtout, on s'aperçoit qu'en fait, c'est même pas derrière chaque grand homme, c'est à côté, littéralement. On connaît Francis Ford Coppola, mais je ne minimise pas le talent de Francis Ford Coppola dans ce que je vais dire. Je dis juste que peut-être qu'il n'aurait pas été ce si grand cinéaste s'il n'avait pas eu une aussi grande femme à côté de lui qui l'a soutenu, aidé et partagé et son talent et sa vie. Donc merci Eleanor.
Oui. Et alors je pense que ça ne remet pas en cause la venue de Francis Ford au Festival de Cannes, mais on peut quand même légitimement se poser la question.
Mais on peut espérer un hommage de Cannes à Eleanor, oui, en projetant par exemple le documentaire sur Apocalypse Now et The Heart of Darkness. Ça serait, je pense, un très bel hommage et émouvant que pourrait lui rendre son mari à Cannes.
Parce que c'est vrai que Francis Ford, il vient présenter Mégalopolis, qui est quand même vraiment un peu le projet de sa vie. Il l'a financé lui-même à hauteur de 120 millions de dollars. On rappelle quand même qu'il avait eu la Palme d'Or à Cannes il y a 45 ans pour Apocalypse Now. Donc bon, voilà, on serait quand même très triste qu'il ne vienne pas au Festival de Cannes. On vous en dira plus, évidemment, dans les prochaines semaines. Après le Festival de Cannes, une autre cérémonie, une autre actualité. Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal+, a annoncé avoir renouvelé pour 5 ans le partenariat entre la cérémonie des Césars et la chaîne Canal+, et donc le droit de retransmettre cette cérémonie à la télévision. Et c'est une bien belle nouvelle, puisque l'année prochaine, on fêtera les 50 ans de la cérémonie des Césars. Donc voilà, une belle date d'anniversaire qui promet plein de surprises. Et comme moi j'ai la chance de présenter le tapis rouge pour Canal+, je peux vous dire que j'étais très heureuse à l'annonce de ces 50 partenariats renouvelés.
Bah, j'espère surtout qu'il y aura un gros gâteau l'année prochaine pour les 50 ans.
Et beaucoup de champagne.
Et beaucoup de champagne.
Mais c'est vrai que la dernière cérémonie était particulièrement réussie. Oui. Hein, donc ces derniers temps, la cérémonie des Césars se suit quand même avec beaucoup de délectation. Et pas uniquement parce qu'il y a Laurie sur le tapis rouge.
Hein. Ah non, moi je suis tout de petit grain de sable hein, dans la machine. Bon, pour terminer notre tour d'actualité, on voulait mettre un petit coup de projecteur sur le Nikon Film Festival. On vous en parle chaque année. Un festival de courts-métrages qui se tient depuis 2009, qui est un véritable tremplin pour les jeunes talents. Il faut soutenir les courts-métrages. Donc c'est un grand concours ouvert à tous où les vidéastes amateurs ou professionnels peuvent présenter leur court-métrage autour d'un thème imposé. Et alors, toutes les deux... Non, je rigole, on peut le dire.
Bah oui, on peut le dire. Non, j'assume.
Parce que tout à l'heure, on parlait du festival et je donne le titre des films, des finalistes. Et Sophie me dit, mais je crois qu'il y a un petit truc autour du feu.
Il y a un petit champ lexical autour du feu.
C'est fou cette histoire quand même, hein, qu'ils aient tous le feu comme ça.
C'est toujours très chic, Sophie. Donc elle me dit, un petit champ lexical autour du feu. Je dis, bah écoute, justement, c'était le thème. C'était le thème du Nikon Film Festival. Donc on pourra voir les courts-métrages.
Comme quoi, c'est respecté. Enfin, visiblement, le message est passé.
Bernard, tout flamme, tête brûlée, le foyer, qui dit mieux.
Il y avait quelque chose, vous aviez raison.
Il y avait comme titiller l'oreille, hein, tout de même. Hein.
Donc vous pourrez voir les 50 finalistes gratuitement sur le site du Nikon Film Festival avant que le grand gagnant ne soit dévoilé. Et pour les départager, un jury d'exception présidé par Quentin Dupieux, spécialiste des films courts. D'ailleurs,
ça, c'est chouette. C'est juste qu'il fait l'ouverture du Festival de Cannes cette année. C'est un peu la grande classe quand même pour le Nikon Film Festival.
Et à ses côtés, Raphaël Quenard, Juliette Armanet, Nora Hamzaoui, Vanessa Guide.
Que des gens qu'on aime. Mais quoi cette histoire, là
Bon, et justement, parlant de quelqu'un qu'on aime, on va retrouver Didier Alouche. C'est l'heure du JT d'Hollywood.
Salut Laurie, salut à tous. La nouvelle est tombée mercredi dernier et depuis, Hollywood et les cinéphiles du monde entier se posent une question. Verra-t-on un jour un nouveau film de Quentin Tarantino? À l'automne prochain, Cutie devait attaquer le tournage de son 10e et ce qui aurait dû être son dernier film, The Movie Critic. En effet, Tarantino a toujours dit qu'il ferait 10 films et pas un de plus. L'histoire était inspirée par un des critiques de cinéma préférés de Quentin. À la fin des années 70, le réalisateur était accro aux critiques pondues par un journaliste totalement inconnu publié dans une revue porno. Le film devait raconter la vie très fictionnalisée de ce journaliste de cinéma. Quentin avait même choisi son acteur pour le rôle-titre, Brad Pitt. Tout semblait prêt pour cet automne, le scénario était terminé, le casting final en cours, le budget quasiment sécurisé, bref, tout roulé et puis patatras. Mercredi, Quentin Tarantino a annoncé qu'il avait changé d'avis, qu'il ne voulait plus faire The Movie Critic, qu'il allait chercher d'autres idées, sans plus d'explications. En plus de la déception de ne jamais voir The Movie Critic, il y a cette inquiétude. Et si Quentin Tarantino ne tournait jamais d'autres films ? Tarantino est obsédé par l'idée du film de trop. En 2012, dans une interview accordée à Playboy, il disait que les pires films des meilleurs cinéastes sont souvent les quatre derniers de leur carrière, qu'il ne voulait pas qu'un mauvais film foute en l'air sa filmographie, que quand les réalisateurs sont dépassés par leur temps, ce n'était jamais joli joli. D'étranges angoisses. D'abord, pourquoi se limiter à 10 films ? Quelle drôle d'idée ! Certains des réalisateurs préférés de Cutie en sont à 20, 30, parfois 40. Et puis c'est quoi cette question d'âge débile ? Scorsese à 82 ans, Eastwood à 93 ans, et Coppola, Schrader, Almodovar, Spielberg, ils ont tous dépassé les 70 ans. Ça n'en rend pas moins leur film passionnant. Non, l'angoisse est sans doute plus personnelle. Tarantino vient d'avoir 61 ans. On se pose des questions à ces âges-là. Pourvu que cela ne l'empêche jamais de refaire du cinéma. On n'a pas vraiment envie d'un monde où on n'attendrait plus le nouveau film de Quentin Tarantino.
Merci beaucoup Didier. Dans un instant, c'est notre journal des sorties. Restez à l'écoute d'Europe 1. À tout de suite.
Europe 1,
19h-20h.
Clap, Laurie Choleva.
Nous sommes de retour dans Clap, votre émission cinéma sur Europe 1. Et tout de suite, on parle des nouvelles sorties salles avec Sophie Rosemont et Perrine Kenson. Alors au programme, attention, la bombe de la semaine, c'est évidemment Civil War, mais aussi le John Wick indien. On parlera également d'un polar corse, d'une comédie entre cousins et d'une professeure dans la tourmente. Mais avant, un petit point sur le box-office. Et malgré les vacances scolaires, c'est un box-office assez faible. Donc sans surprise, la principale nouveauté hollywoodienne de la semaine, c'était SOS Fantôme. Ils sont évidemment premiers avec 308 195 entrées en première semaine. On pouvait s'attendre à mieux.
Bah voilà, ce qui n'est pas dingue non plus. Hein,
non,
en soi,
non, mais allez au cinéma, voyons.
Enfin, bon, SOS Fantôme.
Non, il est réussi. On en a parlé la semaine dernière, Sophie. À la deuxième place, et c'est normal parce qu'il faut bien occuper nos chers enfants, Kung Fu Panda, avec 300 000 entrées et un cumul d'1 460 000 entrées. Et en troisième position,
bah,
à votre
Dune,
avis,
Everest ? Non. Eh ben enfin.
Deux monstres.
Deux monstres. Oh, Godzilla King Kong.
Exactement.
Eh ben.
245 000 tickets vendus, soit un total de 688 000 entrées. Moi, j'avais envie de vous rappeler quand même que Ducobu est encore en salle pour vos enfants. Et puis la comédie Nous les Leroy avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia qu'on aime beaucoup. Mais bon, des débuts prometteurs. Hein, ils ont totalisé 204 000 entrées et des poussières. Donc c'est pas mal.
Je pense que le bouche à oreille va fonctionner sur ce film.
Évidemment. Mmh. Allez, on commence notre tour d'horizon des sorties salles avec une petite comédie coup de cœur présentée au Festival de l'Alpe d'Huez, ici et là-bas de Ludovic Bernard. Ludovic Bernard, il avait réalisé L'Ascension, c'est ce qui avait permis de révéler Ahmed Silla. Eh bien, ce sont leurs retrouvailles, un road trip dans lequel Adrien, incarné par Hakim Djemili, installé depuis 15 ans au Sénégal, il doit revenir en France suite à un problème de visa. Il va être accueilli par Sekou, joué par Ahmed Silla, et ils vont devoir faire équipe.
Il est bien mignon avec ses histoires de passeport. En attendant, moi, je risque mon job.
Et c'est quoi ton job ?
Je travaille chez Terroir de nos régions. Je représente les terrines, les foie gras, le bon pain, les spécialités françaises.
Ça peut te rassurer, cousin. Pour moi, t'es super français. Hein. Tu gueules, tu râles tout le temps.
Et tu ronfles ! Non, je ronfle pas !
Vas-y, tu ronfles !
Pour moi, tu es la France à toi tout seul.
Et voilà, c'est cool, sénégalais complètement intégré et qui n'a pas du tout envie de faire équipe avec Hakim Djemili. Le film est très drôle, émouvant aussi et balaye surtout tous les clichés sur le racisme et sur l'immigration. On va tout de suite écouter vos réactions à la sortie des salles de cinéma.
Oui, moi j'ai bien aimé le film, c'était bien, c'était drôle, c'était amusant.
J'ai bien aimé, c'était marrant.
C'était vachement drôle, je pense que c'était un moment sympa à avoir avec les enfants.
Moi j'ai bien aimé, on voyait bien qu'au début ils s'entendaient pas forcément très bien et ils pensaient très différents, mais au final ils étaient pas si différents que ça.
Une bonne leçon de tolérance en fait, voilà. Et puis on rit beaucoup aussi. On pleure, on rit.
Allez, on continue notre journal des sorties avec la grosse sortie de la semaine, le film dont tout le monde parle, le nouveau film d'Alex Garland, réalisateur notamment d'Ex Machina, qui nous plonge dans un futur proche où les États-Unis sont en pleine guerre civile pour une raison absurde. Et on suit une bande de journalistes qui sillonnent le pays, de New York à Washington, là où se trouve le front de guerre, pour interviewer le président. C'est très réaliste, très violent aussi.
Aujourd'hui, ils avancent sur Washington.
On doit aller là-bas.
Dans la capitale, il tire à vue sur les journalistes.
Chaque fois que j'ai survécu à une zone de guerre, j'ai cru que ça servirait de mise en garde chez nous. Ne faites pas pareil. Pourtant, on y est.
Périne.
Oui. Bah, en effet, c'est très violent. Mais en même temps, c'est un film de guerre. Hein, on s'attendait pas au monde des bisounours. Mais comme on vient de l'entendre dans la bande-annonce, on entend Kirsten Dunst qui dit.
C'est son grand retour d'ailleurs.
Et puis alors, grande actrice. Au cas où vous n'étiez pas au courant, très grande actrice. Et là, en fait, ce qu'elle dit, c'est à chaque fois que j'avais pris des photos, parce que c'est une grande reporter de guerre, elle a fait plein de conflits, etc. Et elle dit à chaque fois, j'avais l'impression que ça pouvait servir d'alerte, de mettre en garde vis-à-vis des conflits. Et elle s'aperçoit quand ça arrive dans son pays que non, en fait, et il y a cette question de à quoi sert mon travail d'une certaine manière. Et en fait, à la fois, c'est un film qui fait peur aux États-Unis parce que ça montre bien l'opposition entre ces deux Amériques, mais c'est aussi un très grand film sur le photojournalisme et le journalisme de guerre, et de montrer à la fois leur nécessité, mais aussi la violence de éventuellement s'apercevoir que l'homme ne retient rien et que le cycle du conflit ne fait que se perpétuer.
Oui, l'homme ne retient rien, mais la femme si. Et d'ailleurs, c'est ce que prouve bien le film. C'est vrai que Kirsten Dunst, décidément excellente dès qu'il s'agit d'apocalypse, plus ou moins, hein, parce que dans Mélancolia, elle était quand même assez exceptionnelle. Et là, on la retrouve telle qu'on l'a toujours connue, c'est-à-dire effectivement grandissime. Pour moi, c'est vraiment l'atout de ce film auquel je peux reprocher quand même une petite faiblesse scénaristique, c'est-à-dire je trouve que c'est pas très tenu. Après, il y a des plans vraiment magnifiques, notamment ce plan où on traverse une forêt en feu la nuit. On retourne sur ce champ lexical du feu, Louis. C'est le thème de la soirée. Et donc, malgré ces 50 millions injectés par 1/24, ce studio indépendant conçu avec attention, il y a quand même un petit quelque chose qui manque, mais effectivement, c'est à voir, ne fût-ce que pour Kirsten Dunst et pour ce propos évidemment tout à fait politique.
Écoutez les réactions de nos auditeurs à la sortie des salles de cinéma.
C'est assez puissant, il y a des scènes impactantes de la presse. Ils sont prêts à mettre en danger leur vie pour documenter.
J'ai très bien aimé, c'est un coup de poing. J'ai passé 2 heures en fait tendues quoi.
Je suis un petit peu mitigé, il manque un peu un background derrière.
Un très bon film qui fait un peu peur. C'est vraiment filmé d'une manière absolument magnifique.
Moi j'ai adoré. Kirsten Dunst qui est incroyable dans le film. Ça m'a fait vraiment plaisir de la revoir au cinéma et c'était wow.
Et dans les salles cette semaine également, Borgo, un polar saisissant avec Afsi Ardzi. Elle est gardienne de prison en Corse, mais sur l'île tout se sait. Elle connaît bien Borgo, un jeune détenu. Très vite, elle est entraînée, malgré elle, dans des affaires mafieuses.
Je vous présente à votre nouvelle surveillante.
Bonjour.
Salut.
On dit que c'est les détenus qui surveillent les gardiens et non l'inverse.
Est-ce que vous aimez votre travail ?
Parfois c'est dur, parfois je fatigue. Vous m'avez suivi ?
On t'a suivi. Elle est petite, Lille.
Sophie. Elle est petite, Lille, mais qu'est-ce qu'elle est grande. Avia Herzi, vraiment grande. Une fois encore, une superbe actrice. Révélée ici, une fois encore, devant la caméra de Stéphane de Moustier, qui signe ici son meilleur film à ce jour. Ce n'est pas qu'un polar, parce qu'il interroge évidemment tous les méandres de l'âme humaine, parce qu'Avia Herzi, qui joue le rôle d'une gardienne de prison, pas très très claire, comme ça, je ne peux pas vous en dire trop plus, vraiment plus, parce qu'il joue avec les temporalités, il joue avec le mensonge. C'est un film qui questionne aussi ce que c'est d'être loyal, de dire la vérité, et qu'est-ce que notre propre vérité. Il s'inspirait d'un fait divers, et je ne vous en dirai pas plus, d'une gardienne de prison qui, suite à un bisou qu'elle a donné à un aéroport, a provoqué un règlement de compte très sanglant.
On écoute les réactions.
C'est bien fait. Le suspense jusqu'à la fin. La comédienne principale, je l'aime beaucoup.
La fin paraît irréaliste, mais sinon c'est pas mal.
C'est bien ficelé, c'est bien fait, les acteurs sont bons et franchement top, j'ai bien aimé.
C'est magnifique, c'est un film superbe avec d'entrée de jeu un très beau plan séquence. C'est tout de suite qu'on va avoir du beau cinéma. C'est tendu, il y a une construction passionnante. Grand film.
Et puis Périne, vous vouliez nous parler de Monkey Man.
Oui, très rapidement, Monkey Man, c'est fait par Dev Patel. Souvenez-vous, le petit jeune de Slumdog Millionnaire, et il a bien grandi. Et il est aussi devenu réalisateur et acteur. Il fait une sorte de John Wick, mais sous stéroïdes hongkongais et taïwanais, à peu près, qui mélange aussi mythologie hindoue et système de caste en Inde. C'est un film d'action.
C'est fun.
Très fun, super, très bazar, c'est le bazar, mais c'est super.
Et moi, je voulais vraiment vous dire un mot sur un film que j'ai adoré, ça s'appelle Amal, l'esprit libre, un film coup de poing nécessaire, viscéral de Jawad Ralib, un film avec surtout cette actrice que j'aime tant, qu'on voit pas assez au cinéma, qui s'appelle Lubna Azabal et qui interprète une professeure de lycée à Bruxelles qui doit faire face à la radicalisation de certains de ses élèves.
Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouvel auteur, Abu Nawas. Il est musulman et il aimait aussi bien les hommes que les femmes.
Les élèves sont venus me voir, ils sont furieux.
Ce que tu as fait lire à mon fils, ça c'est inadmissible.
J'ai le droit d'enseigner les auteurs que je veux. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne, monsieur.
un film très fort, hein, surtout très juste sur ces thèmes compliqués. L'interprétation de Lubna est à couper le souffle, elle est exceptionnelle dans ce rôle de professeur passionné, engagé, qui n'a peur de rien. Et puis tous les jeunes sont incroyables aussi. C'est un film dur, hein, c'est vrai, on ne ressort pas indemne, mais c'est nécessaire. Et c'est la fin d'ailleurs de ce journal des sorties. Je termine sur cette touche-là. Merci beaucoup Perrine et Sophie. Dans un instant, je recevrai André Dussolier pour parler de la comédie N'avoue jamais. Les retrouvailles avec Sabine Azéma. Est-ce que c'est pas un couple qu'on aime à la folie, franchement?
On les adore et surtout, on adore les voir ensemble, on adore les écouter tous les deux, qu'elles voient.
Oui,
deux.
C'est vrai. Alors restez à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, 19h-20h, Clap, Laurie Choleva.
Merci d'être à l'écoute de Clap sur Europe 1. J'ai le plaisir cette semaine de vous présenter la comédie N'avoue jamais en compagnie de mon invité André Dussolier. Bonjour.
Bonjour.
Alors je suis ravie de vous recevoir et de parler de ce film qui sort le 24 avril, réalisé par Yvan Calbérac, dans lequel vous retrouvez Sabine Azéma. Oui. Déjà, s'il ne fallait citer qu'une seule raison d'aller voir ce film en salle, je crois que c'est le bonheur de vous revoir sur grand écran. Je rappelle que vous avez formé un couple mythique chez Alain René ou encore dans la comédie Tanguy. Pour vous aussi, je suppose, quand on vous propose un projet avec Sabine Azéma, vous êtes tenté de dire oui?
Ah oui, j'ai l'oreille qui se dresse parce que l'œil est affûté, parce que je me dis, ah, il y a sûrement quelque chose qui réveille notre complicité, le plaisir de jouer. On nous a mariés souvent ensemble. Mmh. C'est vrai, c'est Alain René qui a commencé et on se connaissait déjà avant quand on travaillait dans les cours. Et puis après, c'est René qui a donné le coup d'envoi. On a fait pas mal de films ensemble. Et je sais pas, il y a quelque chose, on nous voit ensemble et quelque chose qui fonctionne bien. C'est vrai, quand
et
on
oui,
joue,
bien sûr.
Parce qu'il y a quelque chose de très vif, de très aigu comme ça chez elle et qui fait qu'on rebondit de réplique en réplique. Et puis ce que j'aime bien avec elle, il n'y a pas seulement les répliques, mais aussi les regards, les silences, tout ce qui peut se passer et tout ce qu'on peut créer, nous, comédiens.
Et puis ce couple maintenant de cinéma, on y croit tout de suite. Donc c'est vrai que c'est un plus. On n'a pas le moment où il faut rentrer dans le film. On vous voit tous les deux. Et c'est bon, on y est.
On a l'impression qu'on nous suit d'aventure en aventure. Alors celle-là, elle est un peu gratinée. Parce
elle est un peu dure pour vous.
Oui, c'est ça. J'ai jamais joué un... Ah bah déjà, l'affiche raconte tout. On est là sur la plage tous les deux, derrière nos lunettes noires et on se fait la gueule, visiblement. Et donc là, il a dû se passer des choses.
Bah, c'est ça,
des choses,
oui, parce que vous jouez donc C'est inspiré d'un fait divers, hein, l'histoire d'un pauvre Sicilien qui vivait avec sa femme depuis 70 ans. Ils vous ont rajeuni le personnage et qui est devenu le plus vieux divorcé d'Italie. Ouais. Donc vous, là, dans le film, vous jouez un couple et puis vous découvrez 40 ans après l'adultère de votre femme.
Oui, normalement, il y a prescription, mais comme elle le dit souvent, mais là, il ne s'en remet pas. C'est un militaire qui est figé un peu dans ses certitudes et son amour de toujours. Oui, voilà, petit corrigé, ça c'est sûr. Il va évoluer dans le film, heureusement, parce que c'est un film où il y a aussi des enfants, etc. Donc on voit que toutes les réactions se croisent et s'interfèrent. Mais lui, il est en effet, c'est comme s'il vivait ça au présent, quoi. Mmh. C'est une histoire en plus qui concerne non seulement sa femme, mais l'ami qu'ils avaient en commun.
Qui est joué par Thierry Lhermitte.
Voilà, joué par Thierry. Donc il se sent trahi de tous les côtés. Et donc il n'a qu'une hâte, c'est de régler cette histoire comme si vraiment il la vivait aujourd'hui, quoi. Sur le moment.
Ma chère Annie, c'est horrible de te savoir dans les bras d'un autre. Je n'arrête pas de penser à ta poitrine incandescente, à ton triangle de Vénus en éruption. C'est d'être de soins dressés.
Alors ?
Donc tu m'as trompé avec ce type.
C'était il y a 40 ans.
Oui, mais c'est aujourd'hui que je le découvre.
Je te préviens, ça va être un carnage.
Tu vas le tuer ?
Non, je suis sur une visite en place.
Vous vous calmez maintenant, oui ?
Lâchez-le, vous allez lui faire mal.
Annie ?
Oui.
C'est incroyable, t'as pas changé.
N'avoue jamais, c'est notre film coup de cœur qui sera en salle le 24 avril. On en parle avec vous, André Dussolier. Vous jouez côté de Sabine Azéma et Thierry Lhermitte qui est très drôle aussi dans le film, hein, parce qu'en fait, vous voulez lui casser la gueule, puisque votre femme vous a trompé avec lui 40 ans plus tôt, mais il est quand même sympa. C'est ça le problème.
Il est sympa, il a une hauteur de vue. Enfin, il prend ça de façon très.
Ah ben oui.
Avec beaucoup de philosophie. Et bon, il voit que c'est quand même. C'est un peu ridicule, tout ça. La première image que j'ai d'ailleurs de Thierry, c'est derrière une vitre où il fait du judo. Il doit être ceinture noire. Donc évidemment, ça me refroidit un peu, mais
bien
ça ne me décourage pas pour aller régler mes comptes. Mais oui, Thierry, c'est bien parce qu'il a toujours cet œil qui frise comme ça à chaque fois qu'il est dans les situations, y compris les plus incroyables ou les plus difficiles. Et donc, il y a l'humour qui est toujours là. qui émerge dans son jeu et qui est dans les scènes aussi et qui convient bien à la comédie.
Et ça donne un joli trio. Vous vous êtes demandé, à André Dussollier, ce que vous auriez fait à la place de votre personnage, comment vous auriez réagi ?
Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, la jalousie, c'est vraiment pas... C'est comment dire ? On essaie de comprendre. D'abord, personne n'appartient à personne. Donc on part de cette phrase-là, cette maxime-là. Et donc, je passe à évoluer quand même. Mais on comprend que quand ça a eu lieu il y a longtemps, alors on essaie de comprendre comment le mensonge a pu, comment on peut avoir deux vies comme ça. Peut-être pas deux vies, parce qu'elle n'a pas continué à le voir. Elle l'a vu pendant une certaine période. Mais enfin, quand même, on a l'impression d'avoir... Il y a tout le mystère de l'autre qui émerge et qui lui frappe à la figure, qui monte à la figure. Et donc, moi, je pense que dans la vie, je ne sais pas, j'essaierai de comprendre, quoi, d'essayer. On a toujours envie de savoir. Mais voilà, c'est il faut faire le chemin aussi et se mettre à la place de l'autre.
Il faut avaler quand même la pilule de se dire à un moment donné, on a été trahi et la personne qu'on aime plus que tout nous a menti.
Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est une œuvre d'art, un couple. Hein, pour que ça dure toute une vie, il faut vraiment passer par-dessus toutes les étapes qui peuvent arriver à l'un et à l'autre. On ne peut pas avoir une route tranquille, voilà, un long fleuve tranquille, comme dirait Étienne Châtillaise. Mais donc, on est fatalement confronté aux accidents, aux imprévus, et c'est là la force d'un couple, c'est de les dépasser.
Alors votre personnage, on en parlait il y a quelques instants, il est rigide, hein, c'est un ancien militaire, il a pas mal de principes, et il a du mal à montrer à ses enfants qu'il les aime. Et en même temps, il reste touchant. Vous lui apportez quand même cette part d'humanité. Il est bougon, il est touchant.
Oui,
parce qu'il a une belle trajectoire.
Oui, parce qu'il est remis en question aussi par ses enfants, etc., dans sa manière d'être et tout. Et ça le déstabilise complètement. C'est ce qu'il est en train de vivre. Donc, du coup, il regarde les gens, ceux qui l'entourent et ses proches différemment, quoi, évidemment. Il va être obligé d'ouvrir un peu, de ne pas rester dans les œillères et de ne pas galoper comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Et voilà, il est obligé de regarder l'autre, c'est peut-être
c'est
ça
un électrochoc.
Aussi. Oui.
C'est un film très, très émouvant qui questionne pas mal de choses, effectivement, dans la famille, les secrets, ce qu'il faut tous dire. Enfin, voilà, qu'il n'y a pas de vérité. On fait au feeling et parfois, effectivement, encore une fois, avec ses enfants, on se rend compte qu'on ne fait pas forcément bien. Qu'est-ce qui vous touche, vous, le plus ?
C'est la relation qu'on a avec les autres, quoi. Et là, c'est un pari, parce que toute une vie en famille, avec des êtres, y compris avec les enfants, qu'on voit, on ne peut pas tout savoir de l'autre, y compris les plus proches dans sa famille. C'est-à-dire, il y a toujours une part de mystère, y compris pour ceux d'ailleurs qui le vivent, qui vivent leur propre vie. On ne sait pas jusqu'où on peut aller, donc jusqu'où ce qu'on va devenir, ce qu'on va penser dans un an, dans 10 ans, etc. Donc il faut accepter cette évolution-là. C'est pas simple, c'est pas facile quand on est ensemble dans le même amour et qu'on croit qu'il va perdurer. Et là, c'est vraiment un chemin, pas une bataille. J'ai l'air d'en faire un drame là maintenant, mais pas
non,
du
et
tout.
C'est très drôle. C'est ça qui est réussi dans le film. C'est, c'est touchant et drôle quand
oui,
même.
Oui, c'est drôle. Il faut qu'il y ait des rebondissements et puis qu'il y ait à la fois le premier degré et puis le second et puis le troisième. Enfin, tout ce qui peut intervenir dans une histoire humaine. C'est ça qui est bien dans l'écriture de Calberac, c'est-à-dire de Yvan Calberac, c'est-à-dire il y a la comédie, évidemment, on sent qu'il a un malin plaisir à mettre les gens. C'est Feydeau qui disait ça, il disait, moi, quand il y a deux personnes qui ne doivent pas se rencontrer, je les fais se rencontrer, parce qu'évidemment, ils sont obligés de se mentir, de composer, et ça provoque pour le spectateur beaucoup de rire, ou beaucoup de, c'est ce qu'on espère, mais il y a aussi l'évolution de chacun, et qui fait qu'il y a le côté affectif, émouvant, qui peut arriver au coin d'une scène, comme ça, qui est imprévisible.
Le ton est donné dès le début du film, André Dussollier, quand vous préparez une chanson pour l'anniversaire de votre femme, donc Sabine Azéma, sur l'air de la Marseillaise.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, Yvan, il avait écrit la Marseillaise, carrément, il reprenait les termes de la Marseillaise. J'ai dit, écoute, faudrait quand même laisser à cet homme la possibilité, un jour de fête comme ça, son anniversaire, de changer un peu les paroles. On va garder l'air, mais on va changer un peu les paroles. Donc, on s'est amusé à tricoter ça différemment.
Puisqu'elle est née le 14 juillet.
Voilà, elle est née le 14 juillet. Et donc, voilà, c'est encore une manière de lui rendre hommage au milieu de la famille, mais avec des mots qu'il aurait écrits lui-même, qu'on peut le faire en famille comme ça, quand on rend hommage à quelqu'un qu'on aime.
avec votre fille qui est interprétée par Joséphine Demeaux et qui vous
oui.
dit
c'est bien
cette réunion du Front National.
Oui, c'est ça. Oui, parce que ça n'empêche pas le côté critique, évidemment, encore
bien
plus
sûr.
Dans la famille, dans la jeune génération, qui dit qu'ils n'en peuvent plus de ce père et de sa rigidité. Ça s'appelait d'ailleurs au départ Un homme de principe. Puis c'est devenu N'avoue jamais, en référence à la chanson de Guy Mardel, qui, dans les années 70, je crois. Et donc, évidemment, on pense que c'était pas mal de ce titre. Là par rapport à ce qui se passe dans le film qui va un peu intriguer.
Il y a plusieurs choses à avouer en fait. Il y a le mensonge de sa femme, il y a les enfants aussi qui ont des secrets.
Oui.
Il y a lui peut-être qui a du mal aussi à avouer son amour. Il a l'un de ses fils notamment qui est marionnettiste.
Il a deux fils, il y en a un qui est militaire donc évidemment sa sympathie va vers lui et l'autre qui est marionnettiste. Franchement, on sent bien qu'ils appartiennent à des mondes tout à fait différents et donc il le déconsidère quoi. On a tous connu ça dans nos familles. Quand j'ai voulu faire du théâtre, on cantonnait au côté amateur en disant fais ça pour ton plaisir. Et donc du coup c'est un peu ça, cette manière de voir dans les familles où on fige un peu les choses en fonction de ses préférences à soi.
Et on projette des choses sur nos enfants.
Oui, exactement. Et donc là, il a plusieurs enfants, donc il peut se reconnaître dans l'un, pas se reconnaître dans l'autre, et donc il y a toujours des divergences, des oppositions. Et c'est ça qui est bien dans le film, c'est que tout d'un coup, les uns et les autres vont se rencontrer et finir par être émus par ce qui peut se passer et l'évolution de l'autre, quoi. Oui.
Comment vous travaillez, André Dussollier, aujourd'hui avec Sabine Azéma, que vous connaissez si bien?
Avec Sabine, il y a une sorte de confiance, bien sûr, évidemment, avec le temps. Là, je crois qu'on a tourné 11 fois ensemble, donc évidemment, on se connaît bien. Et il y a des films, je me souviens d'un film de René qui s'appelait Les Herbes Folles, où le personnage était tout à fait différent. Et je me disais, mais comment elle va réagir quand elle va entendre ma voix, ma manière de regarder? Et puis donc, quand il y a le plaisir du jeu, j'ai l'impression que la greffe prend immédiatement. On est prêt à accepter de l'autre ce qu'il va faire à partir du moment où c'est juste et que ça correspond à ce qu'on a lu et ce qu'on a envie de faire exister et incarner, qu'on a envie d'incarner. Quoi. Donc, il y a un plaisir immédiat avec elle du jeu, et comme je vous le disais tout à l'heure, pas seulement les répliques et la vivacité qu'on connaît chez elle, mais
et
aussi...
Vous surprendre aussi.
Les arrière-plans, les choses pas dites, les non-dites, les choses... Elle m'a fait souvent des surprises comme ça, au moment, à certaines scènes, on aime bien l'imprévu, quoi. Donc on aime bien que ce ne soit pas cadenassé sur dans une certaine forme. Il faut qu'il y ait des surprises. On est prêt à se profiter de tous les accidents que peut nous offrir un tournage.
En tout cas, des surprises, il y en a dans ce film d'Ivan Kalberak, N'avoue jamais, qui sera au cinéma le 24 avril. Et c'est vraiment toujours un plaisir de vous voir jouer ensemble. Et puis surtout, ce film est très réussi. Avant de parler des films de votre vie, du cinéma qui vous a inspiré, André Dussollier, juste un mot, puisque vous avez terminé le tournage de Zorro. Ça aussi, c'est un gros projet d'envergure. Vous jouez le père de Zorro, donc le père de Jean Dujardin.
Exactement.
Ça s'est bien passé?
Ah oui, c'était très très bien. Vraiment, c'est une série qui va passer sur France Télévisions, France 2. Et donc, je pense que c'est un personnage que Jean Dujardin voulait jouer depuis pas mal de temps. Et c'est une franchise, vraiment. Zorro, c'est connu du monde entier. Et donc là, il y a beaucoup d'humour. On imagine ça. Il y a beaucoup de surprises. Là, vraiment, c'est très très bien écrit. Et très bien réalisé. C'est sur 8 épisodes, je crois. Et là, je joue son père, en effet. Et avec aussi pas mal de surprises. Parce que je peux pas tout dévoiler, mais dès le premier épisode, on a une grosse surprise et les interventions du père sont tout à fait on parlait de N'avoue jamais, mais évidemment, un père avec son fils, et surtout quand même le père de Zorro, il a toujours des réactions un petit peu de père, quoi. Genre, mais t'es nul, t'es vraiment nul. Donc, c'est assez drôle
c'est
de
génial.
Dire ça à Zorro,
oui,
bien
c'est...
sûr.
c'est
et
ça.
Dans toutes les situations, il intervient pour lui dire mais pourquoi tu fais ça? Mais enfin, c'est incroyable. Enfin, voilà. Non, il y a beaucoup de comédie et de légèreté dans cette série.
Ah ben, on a hâte de voir. Il y a quelques photos qui circulent sur les réseaux sociaux et ça donne vraiment envie. Vous restez à mes côtés?
Volontiers.
Dans un instant, on parle des films de votre vie. A tout de suite sur Europe 1.
19h-20h sur Europe 1.
Clap.
Laurie Choléva.
Et Et c'est toujours Clap qui continue. Bienvenue si vous nous rejoignez, votre rendez-vous cinéma sur Europe 1. On vous présente la comédie N'avoue jamais d'Yvan Calberat qui sera en salle la semaine prochaine, le 24 avril, avec André Dussolier, Sabine Azéma ou encore Thierry Lhermitte. Et je suis bien accompagnée cette semaine puisqu'André Dussolier est mon invité et on va tout de suite parler des films de votre vie. Alors André, si je vous demande votre film réconfort.
Alors, c'est des comédies musicales américaines, vraiment. Alors, j'ai cité, je pense tout à I'm Singing in the Rain, mais il y en a plein d'autres à chaque fois. Je trouve que c'est tellement, comment dire, agréable.
C'est le film doudou.
C'est vraiment... Voilà, il suffit d'écouter ça pour tout d'un coup voir les images qui apparaissent. Gene Kelly et tout.
Debbie Reynolds, ouais.
Voilà, c'est très beau de les voir ensemble, jouer et s'amuser en dansant. Et en chantant.
Bon, on laisse un petit peu la musique, ça c'est cadeau pour nos auditeurs. Ouais. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the storm. Ça c'est vrai que ça apporte un peu de légèreté, fait du bien. Alors dans un autre registre, le film le plus traumatisant que vous ayez vu.
Alors celui qui m'a le plus impressionné à l'époque, parce qu'évidemment moi je pensais que les oiseaux c'était quelquefois vous avez des petites surprises quand vous passiez sous un arbre, vous laissez un petit souvenir, bon voilà, et c'est les oiseaux de Hitchcock qui m'a vraiment, où je les ai découverts sous un autre jour, tout à fait différent de ce que on avait l'habitude de côtoyer quand on les voyait de loin ou de près. Les oiseaux de Hitchcock, oui, ça m'a vraiment...
C'est terrible ce film.
Incroyable.
Et c'est vrai qu'on ne les voit plus de la même façon après.
Non, on les sent menaçants. On se dit que ceux qui sont sur une branche, ils peuvent vous faire un sale coup. Donc non, c'est très impressionnant la manière dont ça a été tourné et dans la manière et l'histoire même. Quoi,
avec Tippi Hedren, qui est la mère de Mélanie Griffiths, qui a 94 ans aujourd'hui.
Ah.
Et c'est vrai que quand on la voit enfermée dans cette maison avec tous ces oiseaux qui viennent de plus en plus nombreux autour de la maison, on n'a pas envie que ça nous arrive.
Non.
Il existe plus de 100 milliards d'oiseaux, c'est certain.
Et c'est la fin du monde.
Qu'est-ce qui ne va pas?
Nous sommes en pleine guerre, Sam.
La guerre? Contre qui? Contre les oiseaux.
La guerre contre les oiseaux. Quel est le film que vous avez le plus vu dans votre vie?
Alors, je pense aux les premiers films que j'ai vus, c'est Charlie Chaplin, mais donc je pense au dictateur, parce qu'aujourd'hui, ce serait pas mal de montrer ça à certains tyrans qui nous dirigent et qui dirigent le monde et qui font peur. Et donc, en effet, avec Charlie Chaplin, il y a toujours un moyen de s'amuser d'une réalité absolument terrible. Donc j'avais été frappé par... Il était toujours... Depuis les Lumières de la ville jusqu'au dictateur, vraiment, il a fait des films à chaque fois captivants et distrayants et drôles et impressionnants aussi jusqu'au dictateur.
Et qui dénonce les pires horreurs, mais en même temps qui reste très drôle.
Oui.
Voilà, et avec beaucoup d'émotions aussi, ça c'était vraiment son savoir-faire. Et d'ailleurs, Chaplin, alors pas toujours le même film, c'est ça qui est intéressant, mais on voit à quel point c'est un artiste fondateur, parce qu'il est très souvent cité dans cette émission.
Oui.
Alors, quel est le film qui vous fait le plus rire ?
Alors, il y en a plusieurs, mais je sais pas, j'avais beaucoup ri devant Mission Cléopâtre de Alain Chabat, parce que, je sais pas, il y avait beaucoup d'inventions, des acteurs magnifiques qui inventaient des personnages, il y avait vraiment une liberté dans l'écriture. C'était plaisant, quoi. Comme on retrouvait Alain Chabat dans sa manière d'être, dans toutes les émissions qu'il a pu faire, et aussi au cinéma, là, on a l'impression qu'il se réalise et qu'il est là à nous amuser et à nous distraire avec là aussi une histoire qui pourrait être attendue avec des personnages très figés, mais là il s'en amuse et nous divertit. Et puis j'avais pensé aussi à d'autres films, j'aime beaucoup Toledano et Nakin, j'aime beaucoup Le Sens de la Fête, parce qu'il y avait aussi Jean-Pierre Bacri que j'avais côtoyé quelques fois, surtout avec René là, On connaît la chanson, et puis voilà, je les aime beaucoup tous les deux. À chaque fois qu'ils font un film, c'est toujours distrayant et en même temps tout à fait différent dans le choix des thèmes.
Oui, toujours sur la société, mais ils arrivent à nous faire rire aussi.
Oui, c'est ça.
Sur ces thèmes-là.
Voilà, et là, il nous manque un serveur.
Ben, c'est ce que je me suis dit. Mais j'ai pensé à votre truc sur l'esprit d'initiative.
Oui.
L'autonomie.
Voilà.
Donc j'ai appelé quelqu'un pour le remplacer.
Eh ben ça, c'est bien. Bon, mais dis-moi quand il est là, que je le vois quand on a un peu... Hein.
Ok. Par contre, il doit être déclaré. Je rigole. La tête que vous avez faite.
Mais c'est super drôle, hein, vraiment.
Oh, mais il nous manque, hein, Jean-Pierre Bacri. Il nous manque énormément. Oui. André Dussolier, le film qui vous fait le plus pleurer?
Alors, ça, c'est un des premiers films. Je crois que c'est le premier film que j'ai vu. Il s'appelle Campas et Sigogne. C'est un film russe. Et il a eu la Palme d'Or en 1959. Oui. Ça remonte à loin. Et j'étais bouleversé par cette histoire d'amour qui se déroule pendant la guerre. Et il y a des films comme ça qui nous ont marqués, qu'on aimerait revoir pour voir si on éprouve les mêmes émotions. Mais celui-là m'avait vraiment liquéfié et pensé que le cinéma était un art incroyable.
C'est un film sublime, un film russe. Et nous avions reçu l'année dernière Claude Lelouch qui nous a parlé de ce film et qui nous a dit à quel point ce film justement l'a inspiré pour son métier de réalisateur et à quel point c'est un film essentiel pour lui. Je vous propose qu'on réécoute cet extrait, André Dussolier.
Écoutez, mon meilleur, évidemment, ça reste Quand passent les cigognes. En 1957, je faisais un reportage à Moscou et j'ai eu la chance de passer une journée sur le plateau de ce film, qui est un film magique. Et c'est ce jour-là, en assistant au tournage de ce film, j'avais 20 ans à l'époque, que j'ai dit, voilà, je serai metteur en scène. J'étais reporter au départ et qui a fait de moi un metteur en scène. J'ai dit, voilà le métier que je veux faire parce que c'est ce jour-là que je me suis dit, qui est l'acteur principal du film? La caméra ou l'acteur?
Grâce à vous, c'est incroyable, parce que grâce à vous, hein, quelques années plus tard, j'entends cette interview de Claude Lelouch, avec qui j'ai tourné toute une vie, et je comprends tellement qu'il parle de... On n'a jamais parlé ensemble de Quand passent les cigognes, on est peu sans doute à en parler, parce que c'est un film qui date déjà maintenant, et je comprends très bien que Claude Lelouch se dise, mais qui est le personnage principal, est-ce que c'est la caméra? Et que son inspiration de metteur en scène soit venue en regardant ce film-là, parce qu'il y a des images qui me restent dans la tête, où on voit la caméra qui tourne comme ça, quand le soldat meurt, le héros principal meurt et on voit la caméra, il s'effondre et on voit les arbres, on voit ce qu'il voit, et c'est tout le cinéma de Claude Lelouch aussi qui a été, ça l'a inspiré, je le comprends très bien en l'écoutant grâce à vous.
Merci beaucoup et merci de nous reparler de ce film parce que c'est vrai que c'est un film absolument sublime et qui date de 1958, donc c'est vrai qu'on nous en parle peu dans l'émission. Quel est le héros de film que vous auriez aimé incarner?
C'est un héros qu'on ne proposera jamais, évidemment. C'est Indiana Jones, bien sûr, parce que j'adore ça. J'adore ces aventuriers-là, et avec l'humour et la légèreté aussi qui les accompagne. Mais je m'amuse à citer Indiana Jones parce que jamais on me l'aurait donné. Vraiment, on m'a donné toujours des héros. Les héros, moi, je passais de la chaise au canapé, comme, et donc c'était vraiment pas le type de personnage qu'on m'aurait donné. Mais justement, ça m'amuse et je prends un régal.
Est-ce que vous aviez une âme d'aventurier comme Indiana Jones?
Non, pas du tout. J'étais tout à fait dans ma vie bien rangée, bien dirigée quand j'étais enfant. Mais je rêvais de vivre un peu comme Indiana Jones, bien sûr.
C'est ça, bien oui.
C'est ça la force du cinéma.
Ça nous a tous fait rêver. Quel est le film qui a changé votre vie, André Dussolier?
C'est Les 400 coups de François Truffaut parce que, en fait, j'ai découvert ça. Je pense que c'est le deuxième film après Quand passe les cigognes. Parce que là, tout d'un coup, il y avait une intimité du cours de la vie, de l'être humain, de Jean-Pierre Léo, le jeune, et puis de ses parents.
13 ans.
J'ai l'impression de pouvoir me projeter et de reconnaître un peu quelque chose de ma vie à travers cette histoire-là. Et la caméra qui approchait avec beaucoup de sensibilité et puis de vérité la vie intime des gens. J'ai trouvé ça, oui, c'était une révélation.
Ce jeune Antoine Doinel, vous aviez des points communs avec lui?
Garçon. Sans doute. Quand je pense, il y a un formidable film sur les essais de Jean-Pierre Léo qui reste en mémoire comme ça parce que il avait une sorte de liberté dans le temps de s'exprimer, de dire les choses qu'il pensait. Moi, j'étais pas du tout comme lui, non. Moi, j'étais vraiment très obéissant, beaucoup plus sage. Mais justement, ça plaît quand on voit des gens qui sortent un petit peu du chemin tracé.
Écria d'une voix de tonnerre le fameux mot d'Archimède. Eureka, j'ai trouvé.
Eh bien, moi aussi, j'ai trouvé, Doinel. Vous êtes un abominable plagiaire.
C'est pas vrai, monsieur.
Allez immédiatement porter votre copie à monsieur le directeur.
Je ne l'ai pas copié, j'étais assis à côté de lui, je l'aurais vu.
Ah, vous voulez être exclu, vous aussi?
Je ne le verrai pas.
Avec la musique de Jean Constantin, qui est sublime. Et alors pour terminer, malheureusement, parce qu'il va falloir se quitter, même si je n'en ai pas envie, quel serait le titre du film de votre vie?
Évidemment, je vais faire référence à un film d'Alain René, mais qui convient bien à ce que je ressens. La vie est un roman, parce que la vie, c'est vrai, et surtout dans la vie qui est la nôtre, comédien, on a l'impression d'en avoir plusieurs avec tous les personnages, toutes les situations qu'on rencontre. Alors évidemment, c'est limité dans le temps, c'est sur 2 mois. moi, etc. Mais on est tellement investi et qu'on a l'impression de pouvoir vivre des sentiments qu'on ne vivra pas dans la vie réelle. Et on voyage comme ça, d'histoire en histoire, de personnage en personnage. Donc c'est pour ça, la vie est un roman, parce que la vie elle-même est un roman. Mais on peut aussi dire, j'ai remarqué cette phrase de Michel Houellebecq, tout peut arriver dans la vie, surtout rien. voilà. Mais il peut arriver aussi beaucoup de choses, ce qui fait que j'ai pensé au titre du film d'Alain René. Tout.
Très joli titre, et si je ne me trompe pas, c'était votre première collaboration avec Alain René.
Exactement.
Et vous étiez aussi dans ce film avec Sabine Azéma et Vittorio Gassman, Pierre Arditi ou encore Fanny Ardant.
Exact. Ouais.
Merci beaucoup André Dussolier.
Merci Laurie.
C'était un vrai plaisir de vous avoir sur Europe 1. Je rappelle la sortie de N'avoue Jamais, 24 avril, avec Sabine Azéma et Thierry Lhermitte. Merci à vous.
Merci à vous.